Bon matin. Je me suis posé la question si je vais te dire bonsoir en venant, parce que c'est la première fois que je prêche le matin. Je prêchais toujours le soir. Mais si je prêche le soir, il y a beaucoup de monde qui vient ce soir. Un sujet très aimé. C'est beaucoup apprécié pour le prédicateur de venir faire une prédication sur l'argent. Lorsque, devant un conseil où on dit qui va prêcher sur l'argent, on entend des sifflements. Et cette fois-ci, c'est tombé sur moi. Vous savez ce que c'est le tirage au sort, hein? Et oui, l'argent. Ça me faisait penser à un monsieur Bernier un jour qui nous disait ça. Il dit, j'ai deux hommes devant moi. Il y en a un qui a 6 millions de dollars, puis l'autre qui a 6 enfants. Lequel qui est le comblé? Ben, je ne sais pas. Il dit, celui qui a 6 enfants. Il dit, parce que lui, il n'en veut plus. Mais pas celui qui a 6 millions, par contre. L'argent, c'est un trou sans fond. Le texte qui nous occupe aujourd'hui, je vais vous dire ce soir, dans Matthieu 6, verset 19, s'il vous plaît. Texte très bien connu, que tout le monde connaît, et tout le monde est capable de même dire par cœur une partie de ces textes, si ce n'est pas au complet. Mais texte quand même qui a besoin d'être approfondi, d'être creusé, d'être regardé. Et Matthieu 6, au verset 19, nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille se détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le texte nous parle d'une attitude à avoir au niveau de l'argent. Quelle attitude devrais-je avoir au niveau de l'argent comme chrétien? C'est quelque chose d'important à comprendre. Car ça définit la manière que je vais agir, ça définit les actions que je vais prendre, les décisions que je vais prendre à toutes les deux semaines ou à toutes les semaines selon l'argent que j'ai. Ça sera important parce que ça va aller profondément dans ma vie, les décisions et l'attitude que je devrais avoir au niveau de l'argent. On sait très bien, et on vous a probablement dit, qu'il y a tant de mille versets qui parlent de l'argent dans la parole de Dieu. Dieu est très concerné par l'argent, ou il veut que l'on soit très concerné par l'argent, plutôt. Lui, Dieu, il possède tout. Il veut d'abord que on amasse pour le ciel. Il dit dans le verset 19, non pas des trésors terrestres, mais des trésors célestes. Pourquoi? Parce que c'est une valeur sûre. Comment est-ce qu'on va le faire? C'est ce qu'on va expliquer ce matin. Il désire aussi qu'on ait une vision claire. Les versets 22 et 23 nous parlent de l'œil qui est la lampe du corps et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et les ténèbres seront grandes car ils vont être à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça peut bien faire, l'histoire d'un œil au milieu de parler de l'argent? Mais l'œil est là, et c'est ce qui nous permet de définir les choses. Je vous vois ce matin. Je vous ai entendu, mes yeux vous ont vu, j'ai pu vous reconnaître. L'œil, il peut être éclairé ou il peut être dans le noir. On peut avoir des combats face à l'argent, mais si on a les yeux à la bonne place, ils n'auront pas d'impression sur notre cœur. Lorsque je regarde la télévision et lorsqu'ils dressent un tableau des gens qui investissent dans leur fonds de pension au Québec ou au Canada, puis là, je regarde mon fonds de pension qui est assez, qui est pas énorme, qui est pas, puis je regarde mon avenir, et puis je me dis, ouais, comment je vais faire? Puis je vais-tu avoir assez d'argent? Puis je devrais-tu prendre un autre REER? Puis je devrais-tu investir dans ça ou dans cela? Et l'œil s'embarrasse de ténèbres. Et lorsque tu vois ton conseiller financier et qu'il dit, pour moi, 100 000, tu n'as pas assez, là. Ouais, mais là, mon œil s'embarrasse de ténèbres. Dieu veut que j'aille à la lumière. Je vais prendre soin de toi. Et Dieu veut que je prenne ça au sérieux. Il veut que je regarde cela comme venant d'un enseignement sûr et certain. Il ne veut pas que je m'arrête à mettre des ténèbres dans mes yeux pour que mon cœur soit envahi de ténèbres et que j'ai toujours cette pensée du monde, vais-je n'avoir assez? Est-ce que j'ai investi assez? Est-ce que j'ai assez d'argent pour vivre jusqu'à ma mort? Oui, ça se peut que tu meurs demain. Mais même si je vis vieux, j'ai dans ma famille des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils travaillent maintenant pour le plaisir. Ils disent, je pense que j'en ai assez pour me rendre jusqu'à ma mort. C'est épouvantable. Ils pensent qu'il y en a assez et je ne sais pas combien de fois qu'il est millionnaire. Les pensées du monde qui abrient notre cœur, Dieu ne veut pas que ça fasse une impression dans notre cœur. Dieu veut qu'on ait une vision claire, une vision éclairée, qui va s'attacher à des décisions éclairées aussi. Et au niveau de l'argent, Dieu veut que l'on constate que Dieu est maître exclusivement. On ne peut absolument pas mettre Dieu et l'argent égal. On ne peut absolument pas mettre un peu plus d'emphase sur l'argent. Il n'y a que Dieu qui détient cette place-là. Le reste, ce n'est qu'accessoire. Vous savez, l'argent, ça va et ça vient. Ça fluctue. Aujourd'hui, j'en ai. Bravo. Demain, je n'en ai pas. Mais Dieu est là encore. Et le surlendemain, l'argent. Ce n'est pas un énorme fardeau. Ça ne devrait pas être un énorme fardeau, l'argent. Mais c'est difficile de se détacher de ce phénomène de l'argent-là lorsqu'on consacre autant de temps à l'argent. Demain matin, je vais rentrer à mon travail, puis je vais terminer vers 4 ou 5 heures, peut-être 6 heures. Et c'est comme ça, 5 jours semaine. Nous passons minimum le tiers de notre vie à gagner l'argent que nous avons. Et souvent, c'est la moitié et peut-être même plus. Nous passons la moitié de notre vie à acquérir de l'argent. Puis tu voudrais qu'on prenne ça, comme ça, sans s'en occuper trop. C'est une pression énorme lorsqu'on pense à l'argent. Il y a une pression qui s'exerce. Mais Dieu nous donne son enseignement sur où est ton trésor, sur un placement céleste. Voilà la vraie place de l'argent, ailleurs. Dieu veut qu'on fasse des placements célestes. Il veut que l'on ait quelque chose dans les cieux. Il ne veut pas qu'on monte notre standing de vie ici sur terre. Il veut que l'on monte notre standing dans les cieux. Ce n'est pas l'argent qui intéresse Dieu. C'est notre cœur. Que nous ayons beaucoup d'argent ou que nous en ayons peu, ce qui intéresse Dieu, c'est où est notre cœur. Et c'est ça qui est ça que Dieu veut voir. Dieu possède absolument tout. On est d'accord avec ça? Dieu possède tout. Que cela ait une petite ou une grande valeur, tout appartient à Dieu. Et on ne fait pas, on ne dit pas, nommez-les, c'est à lui. Il n'y a pas de compromis à faire. C'est à lui. Il va dire dans les psaumes 50, « Tous les animaux de la terre m'appartiennent. » Il va dire dans Agé 2.8, « Tout l'argent et tout l'or sont à moi. » Il n'y a pas, à quelque part, un seul once d'or, peu importe sa valeur, qui n'appartienne pas à Dieu. Et s'il en est propriétaire, il serait capable de l'éliminer de sur la planète Terre, parce qu'il en est propriétaire. Il pourrait en créer pour créer des richesses innommables, s'il voulait. Tout lui appartient. Il possède tellement tout qu'il peut même s'approprier une chose que personne ne peut s'approprier, l'air. Y a-t-il quelque chose de plus vide que ça, que l'air? Dieu peut se l'approprier. L'air lui appartient. On va assez loin, là. Personne qui va dire, j'ai un petit peu d'air, là. Non. Dieu dit, l'air m'appartient. Il est riche. Mais ça, c'est difficile à dire lorsqu'on a travaillé toute notre vie puis qu'on a peiné. Puis... Ouais, mais peut-être que j'en ai un peu dans ça, tu sais. J'ai quand même passé 40 heures par semaine, puis j'ai pas eu de vacances pendant quelques années, puis j'en ai peut-être un peu là-dedans. Là. C'est difficile à comprendre. Mais Job l'avait compris, lui. Job, lorsqu'il était dans l'épreuve, il dit à sa femme, « Nus, nous naissons du sein de la mère, et nus, nous retournons au sein de la terre. » Entre les deux, entre notre naissance et notre mort, Dieu nous permet de gérer ses biens. Ce que nous avons, ce n'est rien, mais nous avons la gestion des biens de Dieu. Et Dieu nous les donne pour qu'on puisse les gérer comme il faut. Donc, nous ne sommes plus propriétaires, nous sommes gérants. On n'est quand même pas tout nu dans la rue. Gérant, c'est une bonne job. Hein? Ça implique des responsabilités. Mais nous devons gérer les choses de Dieu comme elles doivent être faites. Dieu veut que l'on soit conscient que nous sommes gérants des biens de Dieu. Et même, Dieu nous donne la force de pouvoir acquérir ces biens-là. Ça ne vient pas de nous. Lorsque, dans Deutéronome 8, il dit, garde-toi en ton cœur, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance, les puissances de ma main, m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Avez-vous déjà priez Dieu pour dire merci Seigneur parce que je suis capable de me rendre à ma job un matin. Ah, j'ai un peu mal partout, là, mais je vais me rendre à ma job pareil. Merci que je puisse le faire. Merci pour la job que j'ai. Parce que ça vient de toi. Parce que si tu voulais, tu pourrais arrêter ça. Merci de l'argent que j'ai gagné par la sueur de mon front. Parce que ça, tu me permets de gérer ça comme il faut. Ça change les valeurs. Vous ne pouvez pas dire, c'est à moi, je vais en faire ce que je veux. Non, 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 ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu gères. Donc, tu devras en faire ce que le propriétaire en veut. Et c'est là toute la valeur des choses. Ce que Dieu nous propose, c'est que nos, ses richesses, ses biens, son argent, servent à l'établissement de trésors célestes. C'est ça la proposition de Dieu. Dieu veut qu'on fasse de ses biens quelque chose qui aura une valeur sûre, qui aura une valeur qui ne se dégrade pas. Le meilleur investissement, c'est un bon actionnaire. C'est fair ce qu'il demande. C'est correct. Je demande que ce que tu vas faire avec mon argent ne perde pas de valeur. N'importe qui ici demanderait ça. Si vous me donniez 1000 $ puis que je dis dans un an, je vais le faire profiter, je vais t'en redonner 500. Tu dirais, ouf, t'es pas un très, très bon gestionnaire. Dieu demande que ce que l'on a puisse avoir, faire du profit. Des trésors célestes. Au lieu qu'ils servent à calmer nos sentiments d'insatisfaction intérieure, nos peurs irraisonnables. Au lieu qu'ils servent à amasser des trésors qui vont être inutiles ou satisfaire des ambitions égoïstes. Ah, j'ai tant d'argent pour mon fonds de pension. Hey, là, ça marche. Ah, maintenant, un petit peu plus la semaine prochaine, ça va être super. Ça, avec ça, je vais pouvoir faire ça. J'ai des vues là, énormes pour ma vie plus tard. Puis... Non. Dieu va plus loin. Nous nous arrêtons à notre mort, Dieu va plus loin. Excusez. Si je veux me rendre à midi. Là. Oups. Mais comment puis-je faire? Comment est-ce que je ferais ça? Comment est-ce que Dieu peut m'aider à le faire? Premièrement, au lieu d'être un adorateur de l'argent à ramasser des trésors, je vais devenir un adorateur avec mon argent. Et l'argent sera placé à la bonne place. Pour bien comprendre ça, il y a 5 principes. Nous allons voir, j'ai oublié cet acétate-là. Nous allons voir dans la prédication comment je peux engager mon argent pour Dieu. Et comment je peux engager l'argent de Dieu, c'est mal titré. Comment et pourquoi je devrais le faire? Et dans le fait de comment je peux le faire, il y a 5 points que j'aimerais regarder avec vous. 5 principes dans nos vies que nous connaissons pour la plupart de nous. Nous les connaissons, ces principes-là. C'est quelque chose qui est évident. Sauf que nous avons des problèmes à les mettre en lumière dans notre cœur. Nous avons des problèmes à les appliquer. La connaissance, c'est beau, c'est bien, mais c'est l'application des connaissances qui est difficile. Le premier principe, Jésus est notre trésor. J'ai beaucoup apprécié les chants ce matin parce qu'ils définissaient ça, que Jésus est notre trésor. Il s'est livré pour nous comme un cadeau à recevoir. Et c'est l'ultime trésor. De savoir cela, de l'appliquer dans notre vie, que ce soit présent dans nos pensées à tous les jours, me garde de l'idolâtrie d'autres choses. Des choses qui ont beaucoup moins de valeur. Ça me garde de m'éloigner de la réalité, comme quoi Jésus est toujours mon trésor. Lorsqu'on a mis notre vie entre ses mains, à cet instant précis, notre sécurité a été assurée pour l'éternité. Notre sécurité ne sera pas assurée lorsqu'on va mourir et qu'on va être dans l'éternité. Notre sécurité a été assurée à l'instant précis où ce que nous avons mis notre vie entre ses mains. Imaginez, nous parlions tout à l'heure de trésors célestes. Sans Christ, il n'y a pas de banque céleste pour pouvoir emmagasiner nos trésors. C'est lui qui rouvre le compte. C'est lui qui pourvoit à ce que nous avons de besoin. Sans Jésus, aucun trésor céleste n'est possible. L'abondance ne nous rend pas heureux. On le dit souvent dans ce monde que le fameux adage « l'argent ne fait pas le bonheur » et lorsque vous le dites, habituellement, vous vous faites rire de vous. Alors, dites ça dans votre, à la shop là, demain matin, là. Dites ça dans, vos, dans un milieu où que tout le monde jase d'argent. Là. L'argent ne fait pas le bonheur. Ha, ha, ha. Tu dis ça parce que tu n'en as pas. Bien, j'ai connu des gens qui avaient beaucoup d'argent et qui me disaient, peut-être devant un verre de vin, ou ce qu'ils sont capables d'un peu plus de se dévoiler, ce qu'ils me disaient, je te donnerai tout ce que j'ai, tout, absolument tout ce que j'ai pour retrouver quelqu'un que j'ai perdu. Il dit, c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Puis, c'est un millionnaire qui me le disait. Ça a peut-être un peu plus de valeur. Mais que Dieu le dise, ça lui donne toute sa valeur. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est clair. Ce n'est pas parce que vous allez avoir beaucoup d'argent que vous allez en être rassasié. Ah, j'ai beaucoup d'argent. Non. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est une parole du Seigneur dans Acte 20. Nous sommes portés à nous rappeler beaucoup plus les choses que nous avons données que les choses que nous avons reçues. C'est des moments plus joyeux pour nous. Et celui qui est généreux, celui qui est vraiment généreux a plus de bonheur dans le cœur. Il est moins aigri, il est moins dur, il est moins marabout. Celui qui est généreux donne, ressent plus de joie. Et c'est pourquoi aussi Dieu est le plus généreux et le plus heureux. On ne peut pas commencer à argumenter sur la générosité de Dieu. Il a été généreux. Et il est encore généreux. Et lui-même est des plus heureux. Nous devons aspirer à grandir dans notre libéralité. Il y a une croissance qui se fait dans la libéralité. 2 Corinthiens 8, 7 nous dit, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il y a une croissance dans notre libéralité. Il y a des choses que l'on comprend et que l'on acquiert au fil des années. Il est venu un temps où ce que nous sommes mis, moi et mon épouse, à genoux, on a dit, comment est-ce qu'on va améliorer cet aspect-là de notre vie? Et Dieu nous a montré la régularité. Oui, Seigneur, on va être régulier. On va donner régulièrement à toutes les semaines. Et les semaines que je ne pourrai pas donner, je vais le transférer à l'autre semaine. Et je vais être régulier. J'ai mis en gage. Et c'est ça que Dieu veut voir. Un engagement. La semaine passée, notre frère Jean-Luc nous a parlé d'engagement, et ça n'est un autre engagement. Et celui qui est généreux s'amasse des trésors célestes. Dieu ne nous a pas donné cet argent-là pour nous-mêmes. Il l'a donné pour celui qui en a besoin à côté. Celui qui donne doit être convaincu qu'il donne avec joie. De son plein gré. Celui qui signe le chèque en étant obligé, en se sentant obligé, s'il sent un certain malaise à faire le chèque, faites-le pas. J'écoutais un petit bout de prédication de M. Piper, qui était comique. Il dit, nous ne voulons que des chèques heureux. Nous ne voulons pas des chèques marabouts. Gardez-les! Lorsque vous serez heureux, vous nous les donnerez. On en veut. Donnez avec joie. n'y a aucun profit à donner avec amertume, à donner de reculons. Lorsque vous écrivez le montant là-dessus, le visage devrait vous éclairer. C'est quelque chose qui nous rend heureux, que Dieu veut voir dans nos vies. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. On ne doit pas décider comment est-ce que l'on donne à Dieu. On doit plutôt décider combien qu'on doit rendre à Dieu de ce qu'il nous a donné. Combien est-ce que je dois garder, Seigneur, de ce que tu m'as donné? Ça change toutes les choses. Quand je donne à Dieu, je suis un peu haut. Je vais te donner à Dieu. Mais lorsque je rends à Dieu, c'est dans un esprit d'humilité, je rends à Dieu ce que lui m'a donné. Et ça change toutes choses. David questionnait, « Qui suis-je? Qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? » Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi. Et nous te rendons d'une manière, en étant dans l'humilité, ce que toi tu nous as d'abord donné. Et dans chaque prédication qui parle de l'argent, il y a toujours la question, combien est-ce qu'on devrait donner? Combien qu'on devrait donner? Plutôt, combien est-ce qu'on devrait rendre à Dieu? Vous êtes la personne la mieux placée pour répondre à cette question-là. Un jeune sauvé qui venait au début de l'Assemblée, il me disait, qui vient encore d'ailleurs, mais qui me disait, comment je devrais donner? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Ouais, mais donne-moi une idée, là. Toute. Ouais, mais là, rien. Ouais, là, ben, choisis quelque chose entre les deux. On a tendance à penser, et je l'ai même pensé dernièrement, que la quantité des dons, la quantité d'argent qui rentre, va avec le taux de satisfaction qu'on a dans l'Église. Moi, je donne, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être que non. Moi, je ne donne pas là parce qu'ils ont pris une mauvaise décision. Les diacres ont pris une mauvaise décision. Moi, là, cette décision-là, là, je ne suis pas d'accord pas trop avec ça. On va diminuer un peu le chèque. Peut-être que ça ne vous concerne pas, peut-être. Je ne vise pas personne. Je ne sais pas si vous avez pris cette décision-là. En tout cas, si vous l'avez pris, vous ne l'avez pas exprimé fort. Et c'est tant mieux. C'est faux, ça. C'est un faux raisonnement. C'est un leurre. Ce n'est pas la vraie raison. Ici, là, chaque sou qui est dépensé pour la gloire. Chaque sou noir qui est dépensé afin que la gloire de Christ apparaisse. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle l'argent pourrait être dépensé. Stéphane, tu n'as pas fait beaucoup de chèques à l'église de Satan, hein? Ne, ça ne doit pas. J'espère, en tout cas. Non, je le sais, j'assiste aux réunions de diacres et... Il n'y a pas d'argent qui va en dehors de la gloire de Dieu. Chaque sou est dépensé pour la gloire de Dieu. Il se pourrait qu'il prenne une mauvaise décision, une décision surtout qui ne fera pas votre affaire. Mais vous n'avez pas tous les éléments pour décider. Eux, oui. Et j'ai confiance aux diacres qu'ils peuvent gérer cet argent-là comme il faut. Mais ça ne devrait jamais être un critère pour donner ou ne pas donner à l'Assemblée. Ce n'est pas les décisions qui vont faire que je vais donner plus ou je vais donner moins. Ah, là, ça a fait mon affaire, m'a grossir le chèque. Ah, non, oui. Non. C'est exactement comme faire un chèque en n'étant pas content. même valeur. Vous pensez qu'on a l'impression de donner à l'Église lorsqu'on va romancer la quête? Je donne à l'Église. C'est faux. Vous ne donnez pas à l'Église. C'est l'Église qui donne à Dieu. Vous êtes l'Église. Ça veut dire ça, François, que tu es l'Église, toi? Tu es l'Église qui donne à Dieu. Nous sommes chacun de nous l'Église qui donne à Dieu. Il y avait une histoire d'un prédicateur qui parlait, puis la dame était vexée parce que des jeunes marchaient de la gomme dans le sanctuaire. Et puis, la dame a dit, j'ai vu des jeunes marcher de la gomme dans le sanctuaire. Le pasteur regarde, dit, non, il y a une erreur. C'est le sanctuaire qui marchait de la gomme. C'est la même chose. Vous donnez à Dieu. Vous contribuez à l'œuvre de Dieu. Vous ne contribuez pas à ce que l'Église grossisse. Si l'Église grossisse, c'est le plan de Dieu. Et vous en êtes responsable. Vous avez cette responsabilité-là. Une autre fausse raison. On pense que la quantité des dons diminue à cause du coût de la vie qui augmente. On sait bien, hein? Le coût de la vie augmente. La nourriture est plus chère. Mon épouse me l'a dit 3 fois cette semaine que la nourriture coûtait plus cher. Je le sais qu'elle coûte plus cher. L'huile pour le char aussi coûte plus cher. Les gens sont moins riches, hein? C'est sûr, on va en donner moins. Un autre leurre. Une autre fausse raison. Je connais des gens d'ici, des gens qui sont au milieu de vous, qui me partageaient qu'ils avaient eu une diminution de leur salaire, qu'ils ont continué à donner la même chose, malgré la diminution. Et il dit, je n'ai jamais rien manqué. Et une histoire aussi d'un homme, d'affaires, qui donnait 40% de ce qu'il gagnait à l'œuvre de Dieu. Et il arrive un revers financier, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Mais il dit, je me suis engagé, je suis engagé, et je vais donner le même montant. Je vais donner. À ce moment-là, quand tu as moins d'argent et tu donnes le même montant, ça devient une diminution. Tu as moins d'argent pour toi. Mais il a continué à donner le même montant. Mais Dieu a béni cela. Et Dieu lui a redonné. Et je pourrais en nommer beaucoup de cela. On discutait l'autre jour avec un autre frère. Et cette pensée-là, je l'ai, ça fait longtemps. Et un frère de Québec m'en parlait justement il y a longtemps. Et j'ai commencé à réaliser que Dieu rendait toujours ce que l'on donnait. Dieu rendait toujours. Mais Dieu veut que l'on s'engage avec notre argent à le servir. Il veut que nous soyons des adorateurs avec notre argent et non pas des adorateurs de l'argent. Oui, on a à payer nos comptes, on a des obligations, et je suis entièrement d'accord avec vous, nous avons tous des obligations. Mais qu'est-ce qui va en dessous, c'est à quel niveau? On place les obligations, les loisirs, l'engagement dans l'Église, et qu'est-ce qui débarque en premier? L'engagement à l'Église. Ah, oh, mais je ne suis quand même pas pour manquer mon repas au restaurant. J'ai travaillé dur cette semaine. Je ne vise pas personne. Moi aussi, il a fallu que je me place devant Dieu, que je me mette à genoux, puis que je comprenne ces choses-là, puis que je dise, il a fallu que j'aspire à grandir. Il a fallu que j'aille plus loin. Et Dieu, à tous les ans, et périodiquement, il me montre comment je dois grandir dans mes libéralités. Ce qui gère la quantité d'argent que nous rendons à Dieu, c'est notre niveau de spiritualité, la confiance que l'on met envers Dieu. Voilà ce qui gère le niveau d'argent que l'on met. C'est l'importance que nous plaçons dans l'établissement du royaume de Christ en Gaspésie. L'importance que nous plaçons l'établissement du royaume de Christ au Québec, au Canada, en Afrique, en Asie, sur la terre entière. Quelle importance que ça a pour vous, ce ministère-là. Notre engagement à vouloir faire la volonté de Dieu est un baromètre de la quantité d'argent que l'on met. C'est un baromètre. Si je décide de mettre peu, parce que ça a moins d'importance pour moi, c'est clair, c'est précis. Où est ton cœur? Là sera ton trésor. Le passage dit tout. Si je vous donnais la permission d'aller dans mon compte de banque, c'est pas fait, là? Si je vous donnais la permission d'aller dans mon compte de banque, ça vous prendrait une demi-heure. Puis vous me diriez, toi, là, tes intérêts, là, sont là, là et là. Pourquoi? Parce qu'il y a bien plus d'argent qui va là que là. Où va ton argent? Là sera ton cœur. Maintenant, regardez votre compte de banque, puis dites-vous à quelque part quel intérêt vous avez dans les choses de Dieu. Où se situe ce niveau-là? On se place en jugement soi-même, afin que Dieu ne nous juge pas. On se place, nous, dans des situations. Mais vous dites, « Oui, mais moi, je suis étudiant. Je n'ai pas beaucoup d'argent. » Donne-en moins, mais donne-en. À quelque part, ça a une valeur, ce que tu mets là. Et la valeur devrait aller à la bonne place pour Dieu. On chante depuis un matin l'amour de Dieu. Si on était capable de la quantifier, si le monde était capable de la quantifier et de la monnayer, il le ferait. Mais quelle est la valeur de l'amour de Dieu dans nos vies? Avez-vous déjà pensé à ça? Quelle est la valeur que vous mettez de l'amour de Dieu dans nos vies? Cool! On n'aura plus de sous ici. Tout va à Dieu. Si on réalise pleinement. Je lisais un livre de Francis Chan. Et le titre du chapitre, c'était « Offrir des restes à un Dieu saint ». Très bon livre que je vous conseille, que je vais annoncer ici un jour prochain. Il citait que nous soyons conscients ou pas de notre richesse, et d'ailleurs, je ne passe plus à cette étape, que nous soyons conscients ou non de notre richesse, celle-ci constitue un grave handicap sur le plan spirituel. Nos richesses est un handicap sur le plan spirituel. Tout dépend où on place la valeur de notre richesse. Où elle est, notre richesse? Dans nos sous? Dans notre portefeuille? Dans ça? Est-ce que c'est là qu'est notre valeur? Ou si c'est en Christ, en Dieu, dans le plan de Dieu, dans le royaume de Christ qui s'en vient? Et M. Wilberforce, qui dit en beaucoup moins de mots, la prospérité endurcit le cœur. Et nous, nous devons nous garder. Être prospère, ça ne veut pas dire avoir un million. Être prospère, c'est de n'avoir juste un petit peu plus que ce qu'on est capable de vivre. Je suis prospère et je n'ai toujours un petit peu plus, mais pas beaucoup pour Dieu, parce que ça endurcit le cœur. Et c'est à cela qu'il faut faire attention. Et c'est cela que Dieu veut qu'on se parle. Pourquoi je devrais donner généreusement? Pourquoi je devrais avoir le cœur sur la main pour Dieu? Peu importe mon statut, étudiant, retraité, travaillant, professionnel, peu importe, pourquoi je devrais donner généreusement? Parce qu'un Pierre 4,10 dit que nous sommes de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et Dieu veut que l'on soit fidèle, trouver fidèle sur les biens que Dieu a pour nous, pour sa gloire. Le rôle d'un gérant n'est pas comment je peux dépenser l'argent du maître, plutôt comment je peux l'investir à la bonne place. Voilà un bon gérant. Comment je peux investir l'argent que Dieu me donne? Notre raison, pourquoi? Pourquoi je devrais donner à Dieu? Parce que selon Matthieu 6, 21, « Là où est mon trésor, là est mon cœur. » Et Dieu est très intéressé par mon cœur. Dieu est très intéressé par où est-ce qu'il est, mon cœur. Est-ce qu'il veut que je me confie dans l'argent ou s'il veut que je me confie en lui? Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec cela. C'est parfait que vous ne soyez pas d'accord. C'est à ce moment-là que vous devez vous mettre à genoux et vous dire, « Seigneur, montre-moi, à moi, la vérité, comme tu l'as montré à Denis Gay. Montre-la-moi à moi, parle-moi à moi. » Et c'est ce que Dieu vous demande, que vous alliez à lui. Vous savez qu'il y a un lien direct entre ça et ça. Hein? C'est direct, direct. De temps en temps, je vois une chaîne. D'ailleurs, c'était mon... Je voulais le faire. Je voulais amener une chaîne en plastique avec une chose là, puis un agro là. Puis à chaque fois que je tirais le portefeuille, je fais « Aou! Aou! Ouh! » Quand mon épouse dit « J'ai besoin de... » Non, non, ben, ouais, OK. Il y a un lien direct entre votre cœur et le portefeuille. Et c'est de ça que Dieu veut qu'on se sépare. C'est de ça que Dieu veut qu'on n'aille plus. L'argent. Et l'argent, ça devient facilement une idole. C'est une belle idole. Elle est facile à faire. Ce n'est pas une statue. C'est un portefeuille, une idole. On ne les met pas sur les murs. On les met dans nos poches, ça paraît mieux. Une idole que le monde veut qu'on aille parce qu'on a des faux concepts, des mensonges, des tricheries. Le monde de l'argent, c'est des tricheries. Et tout ce monde-là nous y entraîne. Il voile notre cœur, il cache nos pensées. Il ne se révèle pas à la lumière. La relation que nous avons avec l'argent et la relation que Dieu veut que nous ayons avec l'argent est complètement différente. Et ce n'est pas à moi à le faire pour vous, c'est à chacun de vous à le faire pour chacun de vous. Permets que j'aie la relation que tu demandes avec l'argent. Non pas la relation que je veux avoir, parce que c'est différent. Permets, Seigneur, que j'aie la relation que tu demandes d'avoir, que j'aie avec l'argent. Pourquoi est-ce qu'on devrait donner? Dans 2 Corinthiens 9, 6, il dit « Celui qui sème peu moissonnera peu. » Texte connu par tout le monde. « Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. » Avez-vous remarqué qu'il n'est pas capable de dire le contraire? « Celui qui moissonnera beaucoup sèmera beaucoup. » Ça ne marche pas, là. Non? Comment je dois faire pour moissonner si je n'ai pas semé? Il faut d'abord que je sème. Ensuite, je veux moissonner. Il faut d'abord que l'argent sorte si je veux 40. Le monde, ce n'est pas ça qu'il dit. Ramasse, ramasse, ramasse. Accumule, accumule, accumule. Mets-en le plus possible dans ton bas. Ouais, tu vas en avoir. Mais Dieu dit, sors-le. Dépense-le. Dépense-le pour ma gloire. Dépense-le pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, je vais m'acheter. J'ai déjà deux véhicules, trois. On en aurait quatre à cette heure. Non! À moins que ça soit pour le donner à un frère qui est dans le besoin. Oui. Dépenser pour la gloire de Dieu. Sème beaucoup et tu moissonneras beaucoup. Un frère me disait l'autre jour, ça fait longtemps, il dit, j'ai reçu environ de dons 25 000 $ d'automobiles. Et j'ai réalisé que j'avais donné environ 25 000 $ d'automobile. Sa voiture était encore bonne, il aurait pu la vendre, usager, mettre sur les packs ou des choses comme ça, puis la vendre à bon prix, mais il a décidé de la donner à un frère qui en avait besoin. Et s'en est acheté un autre. Et au courant de de quelques années, il a donné des voitures qui étaient finies, il a changé sa voiture, puis ainsi de suite. Il dit, j'ai donné environ 25 000 $ de voiture et j'ai reçu des dons de 25 000 $. Dieu est fidèle. Dieu voit. Hey, il sait compter, Dieu. Hein? Hey, il sait compter. Puis il se trompe toujours sur notre bord. Il en met toujours plus. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Oh, les gens de la garderie ne m'aimeront pas. Je sais que j'étais à la garderie la semaine passée. 2 Corinthiens 10, 14, pour terminer. On ne serait pas capable d'aller jusqu'au bout. Nous pouvons être une source de bénédiction pour Dieu avec notre argent. Nous pouvons être une source de bénédiction pour Dieu avec notre argent si on sème beaucoup, si l'argent est là. Nous pouvons être certainement une source de bénédiction. 2 Corinthiens 10, 14. Et t'arrêtes de chanter un cantique de moins, Will. Deux Corinthiens 10, 14, nous dit, nous, c'est ça? Oui. Non, c'est 9, 14, excusez. 2 Corinthiens 9, 10 à 14, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu dans votre obéissance, dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité dans vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux, son don éternel. Nous devenons des canaux pour Dieu. On devient des canaux qui dispensent les bénédictions de Dieu. Ne mettez rien dans ce canot-là qui empêche les bénédictions de Dieu de passer. Ne mettez pas des fausses idées dans ces canaux-là. Ne mettez pas des peurs, des craintes qui empêchent l'eau de couler, qui empêchent les bénédictions de se rendre au monde. Et c'est dans, à travers cela, à travers vos sous que vous donnez, que vous rendez à Dieu, que vous êtes un témoignage et que l'Évangile peut se répandre. Parce que nous avons de la libéralité envers des frères, des sœurs, envers des inconvertis, et nous devenons un témoignage. Mais lorsque nous retenons ce que Dieu nous rend, ce que Dieu nous donne, nous mettons une barrière à ce canal-là. Et aucune bénédiction ne peut s'épandre d'un à l'autre. Je vais écourter, mais pour vous montrer, ils ont fait une étude aux États-Unis. Si tous les chrétiens des États-Unis donnaient 10% de leurs revenus, ça donnerait 46 milliards de dollars disponibles pour l'œuvre de Dieu. 46 milliards, c'est ce qu'on fait avec ça. 150 000 nouveaux missionnaires dans les pays indigènes. Tripler les ressources de la traduction de la Bible. Quadrupler les ressources des évangélistes. Et ainsi de suite. J'arrête là. Et voilà ce que Dieu pourrait permettre de faire avec vos dons. Oh, on ne sera pas capable de faire tout ça, là. On n'a pas le potentiel. Mais on est capable de faire plus pour l'œuvre de Dieu. Certainement qu'on est capable de faire plus. Être généreux pour Dieu est une situation gagnante, gagnante, gagnante. Gagnante pour nous, premièrement. Gagnante pour Dieu et gagnante pour celui qui en a besoin. Pour Dieu, pour nous, pour les frères qui ont besoin, c'est gagnant. Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu. Prête à Dieu. Je prête de l'argent à Dieu. Oh, wow! Taux d'intérêt doit être bon. va prier. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu nous donnes de nous avoir placés dans un pays où coule le lait et le miel, de nous avoir placés dans un pays où l'argent est abondant. L'argent est abondant, Seigneur, si, vraiment si on compare aux pays du tiers-monde où ce qu'ils n'ont rien. Seigneur, permets que je puisse mettre ces valeurs, les valeurs que tu veux que j'aille dans mon cœur, que je puisse les mettre à la bonne place. Que je puisse avoir les yeux éclairés, les yeux lumineux, les yeux remplis de ta lumière pour que j'aille la réalité de la vie. Merci, Seigneur. Merci infiniment que tu m'aies placé comme un couloir de bénédiction pour toi. Permets que je puisse faire le travail comme il faut. Que je puisse faire le travail adéquat pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur. Amen. Je m'excuse pour le temps qui a dépassé.